Bienvenue à chacun, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Philippe Bottmann. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis à Aigle, pasteur depuis un certain nombre d'années. Et puis, je suis heureux de cette journée parce qu'on va aborder un thème qui m'est cher, qui m'a poussé à lancer plusieurs actions de ministère en Suisse romande, on y reviendra. Mais aussi parce que je crois qu'au travers le texte et prières, Dieu désire venir souligner quelque chose de majeur. On a beaucoup passé de temps à réfléchir à nous-mêmes et je crois que Dieu désire maintenant qu'on réfléchisse aux autres. Et parfois ces autres qui nous sont, très proches. J'ai le plaisir de vous introduire à quelqu'un qui m'a impacté lorsque j'ai rencontré, il y a comme ça une année, c'était à la passerelle à Vevey, et qui a parlé de toute une démarche qu'ils avaient faite au niveau de la vie, de leur église, dans la région parisienne, et puis aussi toute une dynamique qui m'a introduit à certaines littératures. On en a fait un document de travail à Aigle, et on a beaucoup travaillé sur ces domaines-là, pour justement arriver à aller au-delà de certains stades de croissance où, quelque part, on a l'impression qu'on arrive presque en haut du col et puis on redescend, puis on fait un peu des va-et-vient comme ça. Et ce qui nous avait vraiment beaucoup parlé, c'est qu'il y avait une réflexion pour passer ces caps et aller plus loin, à d'autres, à d'autres formes de vie communautaire. Mais ça demande beaucoup de travail et de réflexion. Et je suis heureux d'avoir Chris Short ici, qui a réfléchi à toutes ces étapes, puisqu'il nous vient de la région, encore une fois, parisienne, donc ce n'est pas forcément la banlieue de San Francisco. Donc ça nous rejoint déjà un peu plus, même si on est roman et pas forcément parisien, mais déjà on parle le même langage, donc c'est très bien. Mais les noms sont différents. C'est clair que nous, on est dans des régions beaucoup plus campagnardes. Et Paris, vous connaissez, il y a du chiffre déjà, rien que sur ce plan-là. Alors, en 1986, après 17 ans de ministère à Wem, Chris, qui s'est marié entre-temps à une Française, la preuve que son cœur est vraiment accroché à la France, et ils ont 4 enfants, ils vont quitter Wem pour commencer un travail d'implantation région parisienne, et ça commencera dans leur salon. Et maintenant, on a une communauté, je ne sais pas si tu nous montreras quelques images, qui est beaucoup plus grande qu'un salon. Et ça, c'est la grâce de Dieu, mais c'est aussi du travail. Et au travers de tous ces stades qui, quelque part, à un moment donné, va croiser notre stade à nous, au niveau ne serait-ce que numérique, eh bien, on va découvrir des choses qui vont, j'espère, nous accrocher et nous pousser à aller plus loin. Et surtout, partage ton cœur, parce que c'est ça l'important. Alors, je t'invite à venir vers nous, vers moi, et pour prendre la parole, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour des hommes comme Christ qui non seulement a fait un chemin de ministère dans une communauté, mais aussi qui fait partager ce chemin avec d'autres pour que d'autres puissent bénéficier d'outils et qu'il y ait un vrai partage entre nous. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous comparer, mais pour nous aider, pour nous entraider, pour nous solidariser dans une moisson qui est bien plus grande que nos outils et notre nombre. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous te demandons de le bénir, de lui donner les pensées qui nous rejoignent. Amen. Et qui nous fortifient, qui nous interpellent aussi.
Amen.
Et je veux aussi, quelque part, prendre autorité contre tout ce qui vient résister à ce que nous allons entendre, parce que c'est dérangeant, clairement. C'est défiant aussi. C'est peut-être aussi, ça pourrait être culpabilisant, si on l'entend mal, mais on ne veut pas l'entendre sous cet angle-là, mais sous l'angle d'un appel. Alors merci Seigneur de le bénir parmi nous. Amen.
Amen.
Donc, Merci, merci beaucoup. Je vous trouve très courageux de m'inviter parmi vous. Et j'avoue que j'ai deux craintes. Et j'ai presque refusé. Hein. Première crainte, Philippe a déjà expliqué. Je me rends compte, j'habite en région parisienne. Et je suis bien, bien conscient que la région parisienne n'est pas du tout la Suisse. Et en plus, les Français ont la réputation de donner des leçons. Mais j'ai confiance que les Suisses sont plus intelligents que les Français. Et que vous savez mieux contextualiser. Alors j'ai essayé, comment est-ce que je vais adapter ça à la Suisse? J'ai dit non. Je vais faire exactement comme si je parlais à des gens de chez nous. Et ce que vous dites, ah mais ça ne correspond pas à vous, le métier à côté, c'est pas grave. Vous dites, c'est un Français qui parle, en plus il est d'origine anglaise, c'est pas de sa faute. Et puis, voilà, vous avez... Deuxième crainte que j'avais, c'était d'entrer tout de suite dans quelque chose qui est très technique. Et que, parce que moi je ne veux pas qu'on parle de quelque chose qui est technique et un technicien, on va faire ça dans un deuxième temps. Mais je voulais commencer en parlant de ce que moi j'ai appelé une logique de croissance que je trouve dans le Nouveau Testament. Et après, on va vous amener à un pas plus loin. Et je commence donc avec ce fameux verset que vous connaissez si bien, qui démarre les actes des apôtres, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevra sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et là, comme vous le savez, vous avez le plan des actes, hein? Vous avez le plan des actes, la Pentecôte, l'Esprit vient, et puis progressivement, Jérusalem, Judée, Samarie, et puis bien sûr les actes des apôtres terminent à Rome. Et c'est comme ça que ça avance. Et moi je pense qu'il est tellement important de se rendre compte qu'il y a trois actions uniques de Dieu, la croix de Jésus-Christ, la mort du Christ, la résurrection de Jésus-Christ, et il y a certaines personnes qui s'arrêtent là, mais le troisième, c'est la Pentecôte. On ne peut pas penser Nouveau Testament sans ces trois éléments uniques. Croix, résurrection et la Pentecôte. Parce que, autrement, on devient un peu comme mes amis canadiens. Lorsque nous avons construit notre bâtiment actuel, nous avons fait venir une équipe de travail du Canada. C'était des gens absolument chouettes qui ont fait beaucoup de bon travail. Et puis, le jour de repos, je les ai amenés à Versailles. Évidemment. Et je les ai amenés à l'entrée de Versailles. On est passé, bien sûr, devant la statue de Louis XIV. On a fait tout là, on a fait visiter la galerie de glace et après je les ai amenés derrière dans les jardins immenses. Et puis ils ont écouté, ils ont regardé. Après j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Je dis, ouais, c'est bien. Quand est-ce qu'on mange? Alors, vous ne savez pas quoi dire. Mais j'ai l'impression que parfois, on lit les évangiles, la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus-Christ. Et on arrive aux actes des apôtres. Voilà. C'est bien, mais quand est-ce qu'on mange? Et là, je pense que nos amis pentecôtistes, en mettant l'accent sur la Pentecôte, ont quelque chose à nous rappeler, à nous dire. Car les actes apôtres nous donnent ce que moi j'appelle une dynamique de croissance. Le plan, Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre,
le Saint-Esprit vient dans ce contexte-là, et puis, bien sûr, après, nous avons les dès lors, donc on a fini le chapitre 2. Dès lors, ils attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leur propriété et le bien et repartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans le cours du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Mais là, je sais que... Mais là, on a les effets de Pentecôte, une vie dynamique. Mais je sais, là, de toute façon, je prêche aux convertis. Hein. Mais quand je lis ce chapitre, moi, je vois ce que j'appelle une logique de croissance. Et j'utilise l'expression de croissance parce que ça vient de ce que dit François Mitterrand. On ne parle pas beaucoup de François Mitterrand dans nos églises. C'est peut-être une bonne chose, d'ailleurs. Mais j'étais... Il est apparu à la télévision, c'était pas, juste pendant la première guerre du Golfe, et il parlait donc à la France en expliquant que on était, alors ça c'est l'expression qu'il a utilisée, on est dans une logique de guerre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que normalement, à moins qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent, on sera amené à la guerre. On ne peut pas faire autrement. Il y a une logique de guerre qui se passe. Il se peut qu'on l'évite. Il se peut. Mais j'y crois pas. Ce qu'il disait. Et on est dans une logique de guerre. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, on est dans une logique de croissance. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, évidemment, j'entends une croissance numérique. Alors, c'est très intéressant quand on lit les actes. Alors, je ne sais pas si vous avez mis tous ces textes ensemble. On commence en ce jour-là, donc on est à la Pentecôte. Environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Deux chapitres plus tard, ou un chapitre et demi, cependant, parmi ceux qui avaient entendu la parole, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Ce qui montre que quelqu'un tenait des statistiques. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas compter les personnes qui viennent à l'église n'ont pas lu les Actes des Apôtres. Et c'est intéressant, hein? Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, les tensions surgissent. Évidemment, quand il y a une croissance, il y a un problème. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du jeu, hein? Sauf que ce n'est pas un jeu. Alors, on continue, parce que c'est fou quand on met son... La parole de Dieu se reprendait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Chapitre 9, verset 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance du Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Et là, il y a tout un message dans ces versets parce que là, on a tout l'équilibre, hein. Chapitre 11, verset 21. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et c'est comme si on est en train de marteler. Croissance numérique, croissance numérique, croissance numérique. Une dynamique de croissance. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Et puis, vient le verset. Le verset qui m'a laissé rêver. Alors, tout dépend dans quelle traduction vous lisez. Je vous le mets comme la plupart de mes textes bibliques dans la traduction du Semeur. Puis il dit à Paul, donc Paul, il vient à Jérusalem, vous rappelez, hein, donc il sera bientôt arrêté. Et donc les responsables, donc Jacques et les autres, disent à Paul, vois-tu frère, combien de milliers de juifs sont devenus croyants? Alors, ceux d'entre vous qui ont le vieux second, comment est-ce que le mot millier est traduit? Myriade. C'est quoi une myriade? Hein? Dizaines de milliers. Myriade, c'est les dizaines de milliers. OK? Donc, des dizaines de milliers de juifs sont devenus croyants. Et quelle était la population de Jérusalem? Alors, vous qui ont fait des études théologiques, vous connaissez vos Bibles par cœur, les livres. Alors, monsieur Botman-Philippe, quelle était la population de Jérusalem à l'époque? Je te remercie pour cette réponse. C'est Lucie qui nous a beaucoup éclairé. Quelqu'un veut. 100 000. Alors.
Ça dépend si on est en période de fête ou pas.
Ah oui, ton cas, oui.
C'est un peu dans la ville de Cannes. C'est-à-dire, il y a le festival de Cannes et puis il y a le reste de l'année.
Alors, évidemment, donc il y a tout un tas de spécialistes. Alors, on nous dit entre 50 et 100 000. Mais ça veut dire, en quelques années, donc disons, on va prendre le milieu, donc 70 000. Mais il y a des dizaines de milliers de juifs qui sont devenus croyants. Vous vous rendez compte à quel point l'Église a grandi? Parce que là, on y prend en période de fête. Et tout le Nouveau Testament tourne autour de l'établissement de nouvelles églises. Tous les épîtres sont pour résoudre les problèmes, pour faire en sorte que l'Église puisse grandir, consolider, avancer. Et vous connaissez le contexte du livre des Romains. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette épître est écrite. Mais une raison, c'est l'apôtre Paul étant en train de faire un plaidoyer. Il va expliquer que voilà, maintenant j'ai évangélisé tous les mineurs jusqu'à l'Ibérie. Et maintenant, alors, exactement ce qu'il veut dire par là, on aimerait bien le savoir. Hein. Mais il est maintenant, il faut que j'aille en Espagne, et pour aller en Espagne, il faut que je passe par Rome, et je vais établir Rome comme base, et je vais amener quelques-uns d'entre vous avec moi, et puis pour que vous ne me connaissiez pas encore, voilà ce que j'enseigne. Donc, il y a d'autres raisons, mais ça, c'est une des raisons pour lesquelles il écrit cette lettre. Toute cette réflexion de comment avancer encore plus l'extension de l'Église, l'évangélisation, l'implantation de nouvelle Église, c'est depuis les Romains. La logique de croissance, une croissance numérique. Les uns les autres. Il y a aussi, et là je vais passer beaucoup moins de temps là-dessus, il y a l'approfondissement spirituel. Parce que là, on enseigne ça tous les dimanches, hein. Et ça, c'est beaucoup plus entré dans notre façon de penser, je pense. Mais vous vous rappelez de Acte 2.42, lorsqu'on parle de la vie de l'Église, quelles sont les quatre choses dont ils persévèrent? Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Et ça, c'est. Je suis absolument persuadé que ce n'est pas par hasard. Là, il met l'accent sur l'importance de la vie de l'Église, l'enseignement des apôtres, l'approfondissement de la vie spirituelle. Et vous vous rappelez de Paul devant les anciens d'Éphèse, « Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu !» Et les épîtres vont dans ce sens-là. Donc, pour nous, il n'y a pas de dichotomie entre l'approfondissement spirituel et la croissance numérique. Il y avait un brave chrétien, vraiment brave, qui est venu à une de nos semaines de jeûne et prière à Pontecombe. Et il a prié une de ces prières classiques que j'ai entendues souvent. C'est Seigneur, nous ne prions pas tant pour la quantité, nous prions Et moi, je n'ai pas dit Amen. Et après, je dis, si tu restes dans l'église de Ponte Combo, ne prie plus cette prière. Parce que nous ne mettons pas quantité contre qualité. Dans les Actes apôtres, l'apôtre Paul, il a le même souci. Il a autant de soucis pour gagner les âmes, implanter de nouvelles églises, l'extension du royaume et l'approfondissement des chrétiens. Mettre les deux l'un contre l'autre, c'est une incompréhension totale des Actes apôtres. Nous croyons à l'importance des deux. La troisième chose, c'est ce que moi j'appelle une qualité de vie. Et très souvent, le texte que je vous ai montré à la fin de Actes chapitre 2, j'ai mis à l'écran pendant une réunion de prière. Et au début de la réunion de prière, et je dis voilà, qu'est-ce que cela, comment ça touche vos cœurs? Qu'est-ce que ça vous dit ce texte? Et quasiment chaque fois, les gens disent, mais la qualité de vie, ça nous étonne. Et après, on commence à prier, bien sûr. C'est impressionnant. Cette qualité de vie, on ne peut pas parler dynamique de croissance sans parler de dynamique de vie, de qualité de vie. C'est l'ensemble, hein? Comme a découvert Doug Nichols. Doug Nichols était dans une équipe d'opération mobilisation dans les années 70 en Inde. Et les équipes OM en Inde dans les années 70, c'était rude. Et lui, il est tombé malade. Et par une série de circonstances, il a la tuberculose et il se trouve dans une espèce, il se trouve dans un sanatorium, vous dites ça en Suisse, un sanatorium indien, le seul non-indien dans le lieu. Et il est chrétien, donc évidemment, il va essayer de témoigner parce qu'il ne peut pas faire autrement, il essaie de donner les frères, mais lui, on ne peut pas savoir. De toute façon, qu'est-ce que c'est l'Américain qui se trouve dans notre sanatorium, il prend la place des gens de chez nous. Et donc là, il est allongé sur son lit. Il a tuberculose. Et pas bien du tout. Et puis, au milieu de la nuit, bien sûr, de tout, il se réveille. Et l'autre côté, parce que c'est des murs dortoirs, hein, c'est pas comme les hôpitaux de chez nous, hein, mais immense dortoir. Et là, il voit un vieux monsieur, on a l'impression qu'il essaie de se soulever, mais il est tellement pris que... Mais le lendemain, quand il se réveille, il a une odeur affreuse. En plus, on voit que les infirmiers, les infirmières et les aides-soignants sont en train de courir autour de cet homme et ils sont en train de lui parler d'une façon très désagréable et ils se rendent compte de ce qui s'est passé. Que le monsieur essaie de se lever pour aller aux toilettes, il n'y est pas arrivé et puis ce qui devait arriver arriva. Le lendemain, pendant la nuit, et il voit exactement le même scénario. Il voit cet homme en train d'essayer de sortir de son lit. Il est malade, la gueule. Mais dans sa faiblesse, il sort de son lit. Tant bien que mal, il aide le vieux monsieur d'aller aux toilettes. il la ramène, il va au lit, et le lendemain, il est réveillé avec quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. C'est une infirmière, avec une tasse de thé. Et tout à coup, il y a tout un tas d'infirmières, des soignants et médecins qui veulent lui parler, et certains qui même demandent le testament. Et avant de sortir, il fait venir un évangéliste indien qui va prêcher l'évangile là, dans l'hôpital. Et Doug dit toujours aujourd'hui, la meilleure action d'évangélisation que j'ai jamais faite, c'est d'amener un homme aux toilettes. Une dynamique de croissance, une qualité de vie. Donc ça y est, on y va? On y va? Attention, hein?
Quand est-ce qu'on mange?
Parce que le danger là, c'est de tomber dans une espèce de triomphalisme simpliste. Hein. Il n'y a que... Et ce qui est très intéressant, lorsqu'on lit les Actes apôtres, c'est après les Actes de l'Esprit, chapitre 1, 2 et 3, on va vers les Actes chapitre 4, 5 et 6, ce que certains commentateurs appellent les Actes de Satan. Hein. Parce que dans Actes chapitre 4, nous avons Pierre et Jean qui sont appelés devant le Sanhédrin, qui sont battus, vous rappelez, et ils disent, mais on ne peut pas faire autrement que de parler de celui qui a entendu. Si vous avez entendu la grande prière où ils vont, tout le peuple va se dresser à Dieu et maintenant Seigneur, vois le menace, vois le menace et étends ta main, agis avec puissance. Chapitre 5. Chapitre 4, c'est l'attaque de dehors ou de l'extérieur. Chapitre 5, c'est la corruption de l'intérieur. Comment Satan a-t-il pu envahir ton cœur? Et puis le chapitre 6, c'est le cocktail explosif de racisme et d'argent, où le zizanie se trouve dans l'église, et là où ceux qui viennent de l'étranger prennent notre argent. Jamais entendu ça? Tiens. Et ça, c'est dans l'église, dans le chapitre 6. Il y a une dynamique de croissance, mais dans le réalisme du Saint-Esprit, combat, lutte, difficulté, les devants de paix. Hein? Et puis, lorsqu'on lit les Actes, il y a des lieux plus favorables que d'autres. On a l'impression qu'à Thessalonique, l'évangile passe très vite. À Athènes, ça va, mais... Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a certaines villes, certains pays qui sont plus résistants que d'autres. On dit qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a 23 000 personnes qui acceptent le Seigneur tous les jours. En descendant dans le train, j'ai lu un article qui disait qu'en Chine, 10 000 personnes acceptent le Seigneur tous les jours. Mes grands-parents ont passé toute leur carrière en Afrique du Nord. Mes grands-parents, et donc ça c'est mon père là, donc il y a 100 ans, se trouvaient en Tunisie, et pendant 30 ans de ministère en Tunisie, ils n'ont pas vu un seul musulman arabe se convertir. Et ma grand-mère, lorsqu'elle revenait, elle entendait parler de d'autres pays qui étaient plus faciles Elle pleurait et disant, chez nous, nous ne sommes même pas en train de semer, nous sommes en train de casser les rochers avant même de labourer. Mais une différence entre la situation de l'Afrique du Nord et une mentalité défaitiste. Jamais vous avez rencontré ça. Oh là 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 là, mes hommes, qu'est-ce qui va se passer? On voit ça jamais dans nos églises. Hein. Alors, la question qui se pose. Entre l'Afrique du Nord et la Chine, où se trouvons-nous? Est-ce que, aujourd'hui, en Suisse, qu'est-ce que nous avons raison ou qu'est-ce que nous pouvons attendre? Ah, je ne réponds pas à la France, bien sûr. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais là, je vous mets les chiffres officiels, qu'en 1918, on était 25 000 protestants évangéliques, en 1960, 100 000, en 2005, presque 400 000, et on estime qu'on est presque 500 000 aujourd'hui. Et puis, une nouvelle église locale naît tous les 10 jours, et environ 35 nouvelles églises supplémentaires par an. Donc, alors, aucune raison. Aucune raison de ne pas s'attendre à ce qu'en France, les églises grandissent. Si les églises grandissent pas, il y a problème. Et en Suisse? Alors, d'après l'hebdo, qui est certainement absolument fiable, le nombre d'évangéliques a triplé dans les 30 ans. Comme en France. En 1970, 37 000 protestants évangéliques. 2000, 110 000. 2012, 200 000. Mais c'est pareil que la France. Donc, nous ne sommes pas en Chine, certes. Nous ne sommes pas en Afrique du Nord non plus. Mais moi, je crois qu'il n'y a aucune raison sociétale et biblique qui empêche vos églises de grandir. Autrement dit, si les églises ne grandissent pas, le problème est ailleurs. Et moi, j'aimerais vous dire que ça fait plus de 40 ans que je suis dans le ministère et jamais, jamais la situation a été aussi propice pour la prédication de l'Évangile. Jamais, jamais, jamais. Et moi, qu'est-ce que je regrette que mes forces déclinent et que maintenant, c'est le moment de mettre le paquet et de voir les églises de partout en Europe francophone exploser. Pardon? Pardon? Yes! Mais, quelque part, dans une certaine mentalité évangélique, et là je parle de la France, bien sûr je ne parle pas de la Suisse, parce que je ne connais pas suffisamment la Suisse.
Quoi?
Il y a un peu la mentalité que j'ai rencontrée dans les années 80. J'étais responsable d'opérations mobilisation et on menait des campagnes d'évangélisation que nous avons appelées Espoir pour les années 80. Et là, donc, ce qu'on a fait, l'objectif, c'est d'atteindre toute la France, village par village, commune par commune, avec l'Évangile. Et donc, on a divisé de 1981 jusqu'à 1986, nous avons divisé la France en régions. Et l'été 1981, nous avons fait la Bretagne et la Normandie et le Pays de Loire. Et donc, chaque été, j'avais 700 jeunes pour évangéliser juin, juillet, août, et je devais m'occuper de tout ça. Et donc, moi, je devais aller dans les églises pour préparer les églises pour la venue des équipes. Et là, en allant en 81, j'arrive en Bretagne, et je dis, oh là 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 là, oh là, dites à vos équipiers que lorsqu'ils arrivent en Bretagne, que les Bretons, il faut les avertir, hein. Ce n'est pas facile. Hein. L'année après, je l'ai dit. L'année après, je me trouve dans le nord et la Sarthe. Et je vais dans les églises autour de l'île. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il faut bien vous équiper, hein, qu'à l'île et dans le nord, c'est particulièrement difficile. Hein. Et quand on arrive en Alsace, les Alsaciens, c'est encore pire. Oui. 83, on se trouve dans le sud-est de la France. Et vous savez que le Côte d'Azur est particulièrement difficile, vous savez ça? Ben oui, parce que vous savez la mentalité Côte d'Azur. Hein. Et après, on se trouve dans le centre de la France. Oh, le centre de la France, hein. Oh là 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 là! L'occultisme est... Vous savez ce que j'ai pris? Compris? Parfois c'est difficile. Partout c'est difficile. Mais alors? Mais alors? Faut rouler les actes. Et nous devons faire opérer dans nos églises un changement de mentalité. J'ai un ami anglais. On a grandi ensemble dans le même groupe de jeunes. Et quand je le vois, parfois, je lui dis, « Alors, comment ça va ?» Il m'a regardé, il voit, il dit, « Très mal. Très mal. » Et après, il va me faire un clin d'œil. Parce que ça remonte au moment où nous avons commencé le groupe de jeunes dans mon église d'origine. Enfin, commencer, renouveler le groupe de jeunes. On avait jusqu'à une centaine de jeunes le vendredi soir. Vous imaginez, des jeunes qui venaient de l'extérieur. Et conversion, baptême. Et puis, un jour, lui qui était le chef, moi j'étais la bouche, lui, il reçoit une délégation du groupe du jeune qui expliquait comment ça allait mal. Dans le groupe du jeune, ça allait mal. Et il disait, c'était un problème. Et il fallait faire quelque chose. Comment est-ce que les gens peuvent perdre de vue tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce que Dieu peut faire, et voir uniquement la couleur de la moquette? Mais ça ne vous arrive jamais dans vos églises. Et il est temps de revenir aux actes des apôtres avec la conviction, la passion, la dynamique de croissance. Et je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et là, ça mérite un grand amen. Hein?
Amen.
Amen. Voilà. Bon, écoutez, moi je pense que ça suffit pour le premier. Pour un apéritif, ça vous va? Est-ce que quelqu'un a des commentaires ou des... Non, on va prier. Seigneur, je prie pour mes amis. Et Seigneur, je prie pour la communauté. Et je te demande que tu donnes à chacun et chacune cette conviction de cette dynamique de croissance qui se trouve sur toutes les pages du Nouveau Testament. Et je te demande, Seigneur, que tu les aides à contextualiser ça dans leur situation et que tu permettes de connaître le souffle de l'Esprit Saint qui va leur permettre de voir de nouvelles conversions, d'approfondissement des chrétiens et ces changements de qualité de vie qui va attirer d'autres pour que de nouvelles personnes puissent ajouter à ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Des questions, des commentaires? Vous avez peut-être remarqué que j'ai un style un peu provocateur. J'ai parlé trop longtemps. C'est bon.
Je pense qu'on fait une pause maintenant.
On fait une pause maintenant et puis on fait une deuxième partie.
Voilà. Okay. Donc, on a une demi-heure de pause. On se retrouve à moins 10, d'accord? On joue le jeu du temps. On va montrer quand même qu'en Suisse, si on ne grandit pas autant, on est au moins à l'heure. S'il vous plaît.